Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission au fil des pages où nous continuons de feuilleter l'ouvrage d'Henriette Walter et de Bassam Barraquet, Arabesque, l'aventure de la langue arabe en Occident, publié chez Robert Laffont, édition du Temps. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Henriette Walter pour une émission, une de plus, puisque nous en avons déjà en médiathèque fait deux. Et je vous propose aujourd'hui, Henriette Walter, si vous en êtes d'accord, d'évoquer quelques grandes figures qui sont liées à la langue arabe, à la beauté, à la poésie. Et comme l'arabe est lié au Coran, vous nous l'avez expliqué, très rapidement, il y a eu des traductions.
Voilà. Et il y a eu des traductions et des constructions de maisons dites maisons de la sagesse, dans lesquelles il y avait non seulement des traducteurs, mais aussi des savants, mais aussi des médecins, mais aussi des mathématiciens. Et en particulier, je voudrais citer le nom de Al-Khwarizmi, qui, disons, entre le 8e et le 9e siècle, était un énorme mathématicien dont le nom a donné naissance à un mot français, algorithme.
Al-Khwarizmi,
ça a fait algorithme en français avec l'article devant. Nous avons eu aussi une importance vraiment énorme de deux grands savants arabes qui ont été des introducteurs et des commentateurs d'Aristote. Une petite parenthèse, nous n'avions aucune trace
des manuscrits,
manuscrits d'Aristote. Or, tout ce que nous savons d'Aristote, c'est par l'intermédiaire des traductions arabes et des traducteurs arabes.
Était-elle fidèle?
Et donc,
sinon,
ah,
on s'inquiète.
Problème. Alors justement, il y a eu un des grands savants qui s'était inquiété, Kindi, qui était au Xe siècle et qui était un grand astronome, qui était un grand philosophe, qui était aussi quelqu'un qui avait travaillé sur l'optique. Enfin, c'était quelqu'un de très, très fort, qui disait « Attention, les traductions, il faut être extrêmement dur parce qu'il ne faudrait pas inventer, il ne faudrait pas laisser aller son imagination. » Donc, ils ont fait très, très attention. Mais bien entendu, on sait bien que les traductions, ça n'est jamais, jamais la copie conforme. Hein,
ne serait-ce que par la langue, justement, qui n'est pas la même. Donc, ils ont traduit du grec en arabe, et de l'arabe, après, on a eu connaissance.
Alors, pour nous, nous n'avons eu connaissance de ces textes grecs traduits en arabe que un petit peu plus tard, lorsque les Arabes sont arrivés en Espagne, et que
au
en
9e
Espagne,
siècle.
Ils sont arrivés en 711,
oui.
Mais en fait, c'est au 9e siècle
qu'on a,
vous
dites
qu'on a eu connaissance. C'est-à-dire qu'il y a eu ces écoles de traducteurs qui ont été organisées en Espagne, à Cordoue, à Tolède, etc. Et c'est là qu'il y avait un bouillonnement intellectuel assez extraordinaire, avec des tas de gens venus d'Angleterre, par exemple Adélard de Bath est venu, par exemple Gérard de Crémone, par exemple Gerbert d'Aurillac, donc Gérard de Crémone d'Italie, l'autre de France, et qui sont venus pour apprendre à traduire et pour traduire eux-mêmes. Donc, il y a eu là une copie conforme, disons, de ce qui s'était passé à Bagdad avec la naissance des maisons de la sagesse qui ont fleuri un petit peu partout. La première maison de la sagesse ayant été construite par... Enfin, il l'a pas construite lui-même, hein, il a commandé.
Comme César.
par le fils de Haroun al-Rachid. Haroun al-Rachid, que l'on connaît bien grâce aux Mille et une Nuits, mais il n'était pas écrivain, hein, n'est-ce pas?
Donc, C'était un souverain,
voilà. Exactement. Donc, il ne savait
pas. Un abbasside, un calife abbasside.
Voilà, calife qui ne savait pas, mais qui adorait cette langue et qui pouvait aider, disons, faire connaître et à la développer, disons.
Alors c'est très bien ces maisons de la sagesse. Vous ne devriez pas, Henriette Walter, vous ne trouvez pas qu'on devrait les développer à nouveau?
On devrait, c'est-à-dire... parce que en fait, au fond, c'était un petit peu des précurseurs des universités qui sont nées plus tard. Hein. Mais évidemment, aujourd'hui, il faudrait que ce soit plus amical. C'est-à-dire que les maisons de la sagesse, c'était plus convivial que nos universités.
Un vrai partage intellectuel.
Oui, voilà. Oui. Maintenant, c'est devenu trop séparé. Il y a trop de règles, trop de choses qui sont...
C'est moins universaliste, évidemment.
Voilà. Oui. Et évidemment, bon, bien sûr, ils étaient moins nombreux.
Mais
aussi,
ce qui est bien aussi, c'est l'idée que la connaissance intellectuelle, c'est la sagesse et que ça doit mener à la sagesse. C'est
exactement
ça leur idée aussi.
Exactement. Donc, je voudrais citer aussi, j'ai dit Avicenne, pour les traductions et les commentaires d'Aristote, Avicenne et Averroès. Alors, vous connaissez peut-être ce tableau de Raphaël qui s'appelle l'École d'Athènes. Or, qui voit-on au milieu de l'École d'Athènes ? Quelqu'un avec un turban.
Et c'est Averroès.
On voit la liaison entre la culture grecque et la culture arabe.
Mais les noms que vous nous dites, Averroès, Avicenne, ça, ce sont des noms qui ont été francisés ou latinisés. Ce
voilà,
sont des noms, mais en
fait,
arabe, on ne les
Ibn
appelle pas comme
Sina,
ça.
Ibn Sina pour Avicenne et Ibn Rushd pour Averroès. Donc, pour nous, c'est difficile à prononcer. Et donc, nous, bien sûr, nous avons francisé. Il y avait aussi Maïmonide qui, lui, alors n'était pas musulman. Il était juif. Et donc, là, on comprend comment... Dans cette Espagne moyenâgeuse, du haut Moyen-Âge, les trois religions ont pu cohabiter avec tranquillité.
C'est-à-dire que, en tout cas chez les intellectuels.
En tout cas chez les intellectuels, voilà. Alors bien sûr, il y a eu la reconquête, hein, n'en parlons pas, bien entendu. Mais c'est intéressant de voir que même un juif a pu avoir droit de cité pour traduire ou pour apporter toute sa science aux autres.
Si vous permettez, Henriette Walter, juste pour nos auditeurs, dites-moi. Je vais dire que Avicenne, c'est le 10e siècle, il est né en 980 à Boukhara.
Exactement. Hein,
mais que Averroès, c'est tout de même un tout petit peu plus tard, puisque lui, il est du 12e siècle,
exactement,
et qu'il est né à Cordoue et mort à Marrakech. Donc, c'est pour ne pas tout à fait confondre.
Exactement.
Et puis que Maïmonide, c'est à peu près la même
époque. À peu près la même époque.
C'est-à-dire 12e siècle
Averroès,
aussi.
C'est ça.
Et qu'il est né à Cordoue et mort en Égypte.
Voilà. Oui, j'aimerais dire quelque chose sur le fait que nous avons parlé tout à l'heure des Bédouins, hein, de la poésie pré-islamique.
Nous avons parlé de ça dans notre première émission,
oui,
en effet.
Absolument, excusez-moi, c'était dans notre première émission. Et je voudrais dire que dans la poésie pré-islamique, il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi des femmes. Ça, c'est intéressant.
Voilà qui est intéressant.
C'est quelque chose qui était ancien. On a la connaissance d'une dame qui s'appelait Al-Hansa et d'une autre qui s'appelait Jundoub et qui, toutes deux, ont écrit des poèmes d'amour. Et c'est intéressant de le dire, de le rappeler aujourd'hui où on a tellement de problèmes avec, avec le voile islamique et des choses de ce genre-là.
Absolument, la place de la femme en général. Alors,
voilà.
Henriette Walter, vous avez déjà signalé que la langue arabe est une langue qui prédispose à la poésie, à la recherche et même à la calligraphie. Est-ce qu'il y a particulièrement des grands poètes, justement,
Alors, il y a un
pour
poète
la langue
qui est très, très curieux, qui s'appelle Abu Nuwas. Abu Nuwas est un poète qui a écrit à la fois des choses très savantes, mais aussi des choses un petit peu, comment dirais-je, il se laissait un petit peu aller, il chantait les bienfaits du vin, par exemple, ou de l'amour physique. Donc, c'était vraiment quelqu'un d'un petit peu à part et qui osait beaucoup. Et donc, il est extrêmement, extrêmement connu.
Alors, Abu Nuwas, 8e siècle, que vous qualifiez dans votre livre de poète libertin.
Libertin, carrément. Carrément, parce qu'il est à remarquer. Hein, remarquable dans le sens étymologique du terme.
Est-ce que les poètes étaient justement à cette époque, 8e siècle, est-ce qu'il y en a eu après 16e, 18e, justement, c'est ça que j'aimerais savoir.
Alors, il faut dire qu'il y a eu une époque, et mon collègue Bassam Baraké m'a dit qu'il faut vraiment parler de décadence à partir du 15e, 16e siècle. Et je lui disais, mais enfin, on ne peut pas dire une chose pareille. Il me dit, mais si, le mot arabe que l'on emploie dans toutes les littératures, c'est décadence. Donc, il y a eu une période où ça s'est un petit peu arrêté. Puis ça a repris plus tard, au 19e siècle.
Donc, quand vous parlez de poètes, ce sont des poètes du 9e siècle, le grand siècle, 9e,
10e, 12e. Voilà, c'est par là que ça se passe. J'aurais voulu dire quelque chose de quelqu'un du 14e siècle qui s'appelle Ibn Khaldoun en français, hein, enfin en le prononçant à la française, dont on dit il est né à Tunis, il est mort au Caire. Donc, vous voyez, c'est encore un mélange entre le Maghreb et le Mashrek. Et c'est quelqu'un que l'on considère comme le précurseur de la sociologie moderne. Ça, c'est du nouveau, disons, par rapport au dictionnaire dont on a parlé, aux grammaires, à la phonétique. Et puis là, tout d'un coup, il y a aussi de la sociologie. Donc, c'est intéressant. Une dernière chose, peut-être un dernier nom, si vous voulez, qui est considéré comme quelqu'un d'extrêmement important, non pas pour sa poésie, mais pour les connaissances en géographie. Et il s'agit de quelqu'un que l'on appelle en français Idrissi, qui était en l'Ouest, c'est-à-dire en Espagne, et au Maroc, et donc qui a fait un livre de géographie avec un planisphère extraordinaire dont nous n'avons pu retrouver malheureusement qu'une gravure du 19e siècle que nous montrons dans le livre et qui montre les connaissances qu'on avait en géographie à cette époque-là.
Elles étaient déjà donc, importantes, certainement.
Mais oui, mais donc
sans
on reconnaît carte, les choses.
Néanmoins.
Oui, c'est une espèce de carte qui est en, je crois qu'elle est en argent. Évidemment, nous n'avons qu'une représentation physique sur du papier et qui a été réinterprétée dans une gravure du 19e siècle. Alors évidemment, ça se lit pas trop bien. Simplement, ce qui était amusant, c'est que j'ai essayé d'aller voir ce qu'il en était pour des régions que nous connaissions bien, c'est-à-dire la France.
Oui, et alors ?
Et alors résultat. Là, qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, il cite Châtellerault, Rennes, Quimper, Saint-Malo, Reims, Verdun, Orléans,
formidable.
Paris, etc. Et pour chacune de ces villes, il dit ce qu'on y faisait, situation géographique, habitude de vie, habitants, activité économique, etc. Par exemple, pour Nantes, il dit « Nantes est une ville du bord de mer, sise au fond d'un golfe. Elle marque le début de la Bretagne. Elle est grande, prospère, bien peuplée et entourée de champs. À partir de là, la mer forme de nombreux golfes vers le nord. » Et ça continue comme ça. Et c'est assez amusant. Le texte qui est à côté, qui l'accompagne, s'appelle « Le livre de Roger ». Or, ça n'est pas Roger II qu'il a fait. C'est Roger II qui a demandé à Idrissi de rédiger ce texte.
Roger II, le roi normand de Sicile.
Roger II, le roi, exactement.
C'est ça.
Exactement. Le roi normand de Sicile, qui était le grand-père de Frédéric II Hohenstaufen, qui a été si important dans l'histoire de la Sicile et de l'apport de l'arabe vers l'Occident.
Merci Henriette Walter de toutes ces précisions. Je rappelle que nous faisons avec vous une série d'émissions sur la langue arabe, ses aventures, son expansion, ses grandes figures. Mais bientôt, nous allons parler aussi de sa rencontre avec le français. Et on va voir que le français a emprunté et s'est enrichi au contact de l'arabe, mais que l'arabe a aussi beaucoup emprunté au français. À bientôt Henriette Walter.
À bientôt.